Bonjour et bienvenue dans Positive Leadership, le podcast qui vous aide à progresser en tant que personne, dirigeante et enfin citoyen au sens le plus large du terme.
Je pense que je suis devenue chef d'orchestre un peu métaphoriquement.
D'accord.
Je pense que cette idée de que dans la différence ensemble, on peut faire œuvre collective.
Ouais.
Et que pour ça, il y a une certaine forme de leadership qui permettent de construire ça ensemble. Mmh. Oui, je pense que d'une certaine façon, ça, c'est toujours là.
Mon invité d'aujourd'hui, Muriel Pénicaud, est une chef d'entreprise, une diplomate et une femme politique qui a une vision de chef d'orchestre. Ce sentiment intérieur d'être intuitivement, voire même inconsciemment, connecté à ses partenaires, de leur donner ce dont ils ont besoin et d'obtenir ce dont on a besoin aussi. C'est cet art d'écouter et de réagir dans l'instant qui fait un orchestre brillant et des équipes formidables à travailler ensemble. Ancien ambassadeur auprès de l'Organisation de coopération et développement économique, Muriel a été aussi la première femme à être élue au comité exécutif de Danone et y a introduit le programme pionnier DanCares, garantissant ainsi des soins de santé de qualité à tous ses employés. Plus tard, en tant que ministre du Travail en France, elle a mené une réforme majeure de la formation professionnelle, de l'apprentissage et du fameux compte personnel de formation. Aujourd'hui, elle siège au conseil d'administration de Manpower Group, de Galileo Global Education, et elle est à la présidence du CA d'AgroParis Tech. S'il y a bien un fil rouge qui traverse sa longue carrière, c'est celui qui relie le social et l'économie. Et j'ai voulu en savoir plus sur les origines de son engagement et sur la manière dont elle garde clairement cette vision à l'esprit lorsqu'elle prend des décisions pour mener ses équipes vers le succès. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre dans cette conversation et j'espère que vous l'apprécierez et restez avec nous jusqu'à la fin. J'aimerais revenir, Muriel, d'abord, on va démarrer par le tout début, souvent, ce qu'on aime faire, évidemment, avec tes racines, commencer par comprendre un petit peu comment sont forgées tes valeurs et d'où vient aussi ton désir, je pense, d'avoir un impact positif. Tu as grandi au Chesnay, en Île-de-France. Ton père était, je crois, conseiller financier, ta maman, femme au foyer. Alors, parle-nous un petit peu de tes parents, de leur influence sur tes valeurs, sur peut-être ce que tu es devenu, mais aussi peut-être tes toutes premières passions qui ont émergé pendant ton adolescence.
Moi, je viens d'une large tribu. J'ai 95 cousins et cousines germaines.
Oula.
Donc, si je parle que de mes parents, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas de la dynamique. Famille avec des origines limousines, du Nord, et un peu italienne, qui se sont retrouvées...
Mélangées.
Juste avant la Deuxième Guerre mondiale en région parisienne. Mais ça compte parce que mes parents étaient tous les deux septièmes de respectivement 9 et 11 enfants.
Oula. Ouais.
Et nous étions que 5. C'est prévu pour plus, mais comme ma maman a eu la tuberculose, elle n'a pas pu avoir autant d'enfants qu'elle voulait. Juste pour dire que le mode d'éducation dans ce type de famille, c'est pas l'attention à chacun dans le détail. Je voyais jamais mes parents seuls. Enfin,
vous débrouillez entre vous. Enfin, il y avait des responsabilités.
Le sens de la fratrie.
Oui.
Ouais. Par exemple, la fratrie large est très forte, d'autant plus que nous, on a un de nos frères qui a un léger handicap. Mmh. Et donc, il y avait de la bienveillance, il y avait de l'ouverture, il y avait beaucoup de liberté, et puis les libertés qu'on prenait, parce que finalement, donc pour moi, le grand collectif, ça me fait pas peur. Je pense que ça a commencé par ça.
Toute petite,
quand c'est pas assez grand, je me dis, mais où ils sont?
Tu cherches ta tribu, quoi.
Je cherche ma tribu, voilà. Et j'aime bien connecter des tribus différentes. La deuxième chose, c'est que c'était pas un monde où la création, l'art était important, mais par contre, il y avait des valeurs mesurées, modérées, on s'emportait pas, on réfléchissait.
Comme lesquelles, par exemple, tu dirais des valeurs
La bienveillance, a priori, et une ouverture d'esprit et pas de colère, plutôt quelque chose d'assez posé. Alors, mais la personne la plus importante dans mon enfance a été ma grand-mère maternelle, puisque comme ma mère n'a pas pu nous élever quelques années, effectivement, ça a été, et elle était créative, elle bousculait tout, elle est née en 1893, elle était orpheline et elle a fait des tas de choses. Donc là, j'ai trouvé vraiment mon modèle qui est on pousse les murs.
Alors justement, merci de me faciliter la transition dans ton livre « Pousser les murs ». Tu parles d'un moment charnière de ton enfance, je crois, quand tu avais environ 10 ans. Et quand un prof a complètement rejeté ton idée de devenir tout simplement chef d'orchestre. Quelle idée se produit comme quelque chose que les femmes ne font tout simplement pas, tu disais. Ce qui a dû être évidemment un moment très frustrant. Alors, est-ce que c'est à ce moment que tu as réalisé que tu avais une bataille à mener et d'ailleurs laquelle, et qu'il y avait des murs que tu devais abattre pour réaliser ton potentiel. À 10 ans, parce que c'est pas très vieux quand même. Hein.
Oui, à 10 ans, quand une professeure m'a dit « Vous ne pourrez pas être chef d'orchestre parce que c'est impossible pour les femmes », ça m'a révoltée. C'est pire que, pas tellement frustrée, mais
révoltée,
abasourdie, parce que je m'étais pas aperçue avant qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons dans le destin social. Révoltée, et ça a été le début de quelque chose, parce que du coup, je me suis mis à regarder, j'ai interrogé les femmes de la famille. C'est l'année où ma mère a eu le droit à son premier chéquier, à son compte en banque. Je l'aurais peut-être pas perçu sinon. Je me suis fait raconter à toutes les anciennes leur vie. Et puis après, je me suis intéressée au social, et voilà, à 15 ans, j'étais déjà animatrice dans les bidonvilles avec des enfants en difficulté, et notamment à travers l'art. Enfin, je suis partie à la découverte de la société, et mon engagement sociétal et social, je ne dis pas qu'il ne serait pas arrivé, mais il a été formidablement accéléré par cette révolte, cette incompréhension, et du coup cette envie d'aller voir, de comprendre et de changer les choses. Et donc à l'adolescence, j'étais déjà engagée dans plusieurs choses. Je lisais aussi énormément, c'était toutes les religions, et puis Marx, puis Freud, puis Mao, puis enfin Bourdieu, Passon, etc. Enfin bon, j'ai été assez intense comme adolescente, toute jeune, parce que je voulais à la fois comprendre et puis clairement transformer.
Et donc, ces murs, comme tu le dis, Muriel, ils ne s'arrêtent pas simplement au genre féminin et masculin. Tu parlais aussi d'accès aux bidonvilles et je pense plein d'autres sujets. On reparlera un petit peu plus tard de culture, parce que je sais que ça t'a suivi aussi, visiblement, avec ta grand-mère, mais bien au-delà jusqu'à aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, évidemment, de nombreuses personnes se heurtent toujours à des obstacles. Les jeunes, par exemple, face à leur réussite future, à la formation, à la mobilité sociale. Et on parle aujourd'hui, tu le sais, de grandes difficultés d'orientation des jeunes suite à leur bac ou cycle secondaire. Ça reste encore une problématique. En ce qui te concerne, je crois comprendre que tu as démarré par une licence d'histoire suivie par une maîtrise des sciences de l'éducation, un DE en psychologie clinique et également un diplôme de l'Institut européen d'administration des entreprises. C'est simplement impressionnant dans toutes les disciplines que tu as menées. Alors, est-ce qu'il y avait un fil conducteur, je ne sais pas, ou c'est une curiosité de ta part d'aller creuser et d'apprendre l'histoire, l'éducation, la psychologie, les affaires? Pourquoi? Pour faire quoi, finalement?
Alors, en fait, à 17 ans, je voulais changer le monde.
Le monde,
C'est la génération aussi. J'en faisais partie. J'avais 13 ans quand il y a eu mai 68, et avec les copines, on a déclaré les taux de gestion dans notre bahut. Donc, on avait déjà un peu d'entraînement. Et donc, je voulais être un site pour changer l'école.
D'accord.
Mais j'étais trop jeune, puisque j'étais en avance. Ah. Donc, il fallait que je fasse autre chose. Évidemment, j'ai refusé d'aller en prépa, parce que, Bourdieu, Boudon, etc., reproduction des élites sociales.
Pas question.
Même si à l'époque, j'avais pas du tout compris que pour les filles, c'était un trou de souris. Mais bon. Mais du coup, fac à Nanterre, faut être logique.
Bien sûr.
Donc, je suis allée en fac à Nanterre, où j'ai étudié, simultanément, en fait, l'histoire pour comprendre, et les sciences de l'éducation, avec mon idée de faire quelque chose dans l'éducation plus tard. Et la psychoclinique, ça a été plus tard. J'ai fait mon DEA pendant que je travaillais, comme un outil de compréhension, d'approfondissement. Et puis l'INSEAD.
C'est l'INSEAD. Absolument,
Je l'ai fait, alors là, comme dirigeante en entreprise. En anglais, avec tout l'aspect finance. j'ai fait du plus classique, mais qui était très complémentaire.
Mais alors, est-ce que j'essaie de retrouver à nouveau, mais on voit que c'était déjà très foisonnant entre tes études et les différents univers dans lesquels tu allais te plonger. Mais tu as commencé finalement ta carrière, si je ne me trompe pas, dans le service public.
Oui.
En tant qu'administrateur régional, puis en tant que directeur de deux associations aussi de jeunesse à but non lucratif. Alors, qu'est-ce que tu as retiré de cette première expérience de travail dans le secteur public?
Alors là, pour moi, je voulais aller vers l'intérêt général. Donc, commencer par le secteur public. Je voulais être indépendante économiquement très vite. Pas question de faire des études longues, ou plus exactement de les faire en travaillant. Ouais. Et donc, ce que j'ai retiré, c'est évidemment l'idée qu'il y avait des choses qu'on pouvait changer, mais qu'il fallait en changer beaucoup pour pouvoir les changer. Mais surtout que, en fait, qu'il fallait prendre des responsabilités si on voulait changer plus de choses. Parce que j'ai commencé finalement par le bas de l'échelle. Et assez vite, je me suis aperçue qu'on n'avait pas assez de levier.
D'accord.
Et je pense que comme le saumon remonte la rivière, si je fais très court, oui. J'ai commencé comme ça et c'est comme ça que je suis devenue dirigeante d'entreprise et ministre un jour pour pouvoir avoir
c'est l'accélération,
plus.
D'accord.
Non, mais là, je raccourcis un peu le temps. J'avais pas du tout de but de ce type-là, mais oui. À chaque fois, je trouvais des gens avec qui innover et à chaque fois, on le faisait en partie.
Et puis, il y avait des choses
qu'on ne pouvait pas faire avec autant d'impact aussi grand parce que d'autres qui s'en fichaient tenaient les verrous. Donc, ça m'a un peu motivé à.
Est-ce que tu as une anecdote peut-être de cette époque-là dans tes premiers rôles dans le secteur public, dans ce que tu faisais et sur lesquels tu as été là aussi soit frustré, soit révolté en disant là, on aurait dû faire.
Les trois premiers mois, comme ça,
c'est. Ouais, d'accord. Oh,
c'est les trois premiers mois, je travaillais au centre de formation des personnels communaux et j'avais écrit. J'étais toute jeune, j'étais arrivée depuis 3 mois et un petit poste, mais j'ai écrit une proposition de stratégie nationale.
Ah, carrément.
Parce que je voyais bien ce qu'il fallait faire.
Tu as envoyé ministre aussi,
je ne savais même pas que ça existait dans un paysage accessible. Et je l'ai donné à mon chef, qui a donné au chef. Et au sixième niveau, le président du conseil d'administration a demandé à ce que je le présente au conseil d'administration.
Wow. J'étais là depuis 3 mois.
Donc, je me réjouissais. Et puis, juste avant d'entrer, quelques minutes avant, il y a quand même copine de la CFDT et DRH qui m'ont dit, quand même, fais gaffe, parce que ce gars, il saute toutes les jeunes qui arrivent.
Oula.
Et il fait des avances publiques et considère qu'il a le droit sur les jeunes recrues. Voilà. Et donc, je présente mon truc. Et à la fin, le président, qui était un élu, il est décédé maintenant, un élu connu en France, dit, écoutez, Muriel, c'est très bien, mais nous n'avons pas le temps d'en discuter maintenant. Et donc, venez à la sortie à mon bureau, on sera tranquille tous les deux pour en parler.
Oula.
Donc, c'était très clair. Et donc, sans réfléchir, je me suis levée. Et j'ai dit, eh bien Pierre, personne ne l'avait jamais appelé par son prénom, c'était Monsieur le Président. Eh bien Pierre, pas de problème, venez dans mon bureau et nous en parlerons quand vous voulez. J'avais évidemment pas de bureau.
Bien sûr,
Et je suis sortie en me disant, ça y est, je suis virée.
Oui.
Il n'a pas osé.
Ah,
il n'a pas osé parce que c'était public.
Bien sûr.
Et deuxièmement, mon texte a été utilisé.
Waouh, j'adore l'histoire de Muriel. Elle témoigne de sa profonde confiance en elle et de sa capacité à se défendre. Le fait de se défendre ne signifie pas que l'on est difficile ou que l'on argumente pour le plaisir. Si quelqu'un ne respecte pas vos sentiments ou vos limites, c'est lui qui est en cause, pas forcément vous. Lorsque vous êtes sûr de quelque chose, vous devez le faire. Faire preuve d'assertivité vous aide à gagner en crédibilité en tant que leader. Il est très important d'acquérir suffisamment de courage pour pouvoir se défendre. Et lorsque vous y parvenez, il est beaucoup plus facile alors de défendre quelqu'un d'autre.
Et après, la mission locale de jeunes, donc j'ai créé et dirigé une des trois premières missions locales, c'est Bertrand Schwartz, qui est quelqu'un de formidable, qui était délégué interministériel, qui m'a repéré dans les agitateurs de terrain,
et qui m'a proposé,
qu'il m'a fait une confiance invraisemblable, parce que j'avais 26 ans, et je dirigeais 30 personnes, et on accueillait 2000 jeunes.
Service public, c'était évident.
Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une expérience du service public, en disant, il y a quelques chemins de traverse là-dedans.
Tu les as trouvés rapidement.
Mais évidemment, après, j'ai été obligée de domicilier 2 fois pour qu'on entende ce que je voulais dire. Après, il a fallu se battre. Mais il y a quand même des gens formidables au sein de l'administration, du service public. Il faut les repérer, et ensemble, il faut faire bloc.
Oui, je pense qu'il y a vraiment des hommes et des femmes qui sont là essentiellement et surtout pour servir l'intérêt général, comme tu le dis, et ils sont remarquables.
Mais sont souvent empêchés.
Ils ne sont pas forcément
aidés. Je me suis rappelé après, en me disant comment je fais pour les désempêcher.
Mais on reviendra tout à l'heure, bien sûr, c'est une mission les plus élevées dans le service public, Muriel, en tant que ministre. Mais là, on va basculer un petit peu dans ta période privée aussi, puisque tu es vraiment très éclectique entre toutes.
J'aime voir les choses à 360 degrés.
C'est très bien, ça te donne de ce fait des perspectives très variées, pas monolithiques. Et donc, tu as basculé dans le secteur privé, à la fois chez Dassault Systèmes, Danone, où tu as passé 12 ans de ta vie professionnelle en tout, je crois. Et en 2008, tu es devenue d'ailleurs directrice générale des ressources humaines et l'innovation sociétale et membre du comité exécutif de Danone. Tu étais la première femme à siéger au comité exécutif et il fallait y briser le fameux plafond de verre. Alors, comment l'as-tu brisé? Comment ça s'est passé?
Juste pour dire, je reviens un instant sur éclectique. Donc, j'ai été une petite vingtaine d'années une quinzaine d'années dans le secteur public. Et à force de réglementer, encourager, pousser, etc., moi, j'ai eu envie de faire. Mais c'était toujours le même engagement, c'est comment on relie le social et l'économique.
Et l'économique.
J'étais persuadée que c'était le fil rouge,
ouais.
Et on rajoute bien sûr l'écologie maintenant.
Ouais, ouais.
C'était le fil rouge, mais je voulais aller du côté de ceux qui font. Et c'est comme ça que je suis entrée dans l'entreprise. Donc, c'est le même engagement sur d'autres terrains.
Les faiseurs, et pas
les
simplement
faiseurs,
les agitateurs.
Voilà, et pas simplement ceux qui encouragent, réglementent, etc. Ce qui sont utiles,
ils ont des rôles
mais
aussi,
j'avais envie de faire. Et donc, la première femme au COMEX, les deux fois, Dassault Systèmes et Danone, première et seule.
Et seule. Tu es restée seule malgré tes fonctions.
Et je suis j'ai réussi, mais ça a mis plus de temps.
Après ton départ.
Alors maintenant, des deux côtés, il y en a plusieurs. Voilà, mais il fallait le temps d'initier.
Ouais.
Et je pense qu'il y a des moments au niveau des postures, il faut pas hésiter. Toutes sortes de choses, y compris l'humour. Petite anecdote, quand j'étais chez Danone, au comité exécutif. Donc, moi, mon mode principal, il est coopération, parce que je considère que la compétition, c'est à l'extérieur, la coopération à l'intérieur, mais c'est manifestement pas la compréhension de tout le monde. Et donc, j'ai essayé de coopérer. Et un jour, Franck Riboud, qui était le patron de Danone, me dit, écoute, je comprends pas, t'es fort, t'es puissante, tu sais ce que tu veux, etc. Pourquoi tu coopères avec les autres? C'est un signe de faiblesse. Tout le monde se dit que c'est que t'as besoin des autres.
Donc,
côté faible.
Il est surpris.
Il a changé. Il a beaucoup changé. Après, maintenant, il se marre quand je lui dis ça. Et alors, là, je me dis, il y a un truc.
Quelque chose.
Donc, je fais une expérience.
Ouais.
Et au COMEX suivant, je décide d'être en mode compétition et même agression, comme il faisait, avec un de mes collègues. Donc, je choisis un qui était peut-être le moins coopératif, le moins ouvert au RH. Et je l'aligne proprement,
vraiment,
comme on dit,
au sabre. En plan comité exécutif, d'accord. Ouais.
Et tu sais, les colères froides, parce qu'elle était totalement simulée. Donc, elles sont merveilleuses.
Parce qu'il
n'y a rien qui déborde, mais voilà. Et donc, tout le monde arrête de parler, effrayé. Et là, Franck sort. Il y en a une seule qui a des couilles ici, c'est Muriel. C'était un compliment.
Oui, c'était un compliment.
Et ça, étant d'une famille nombreuse, j'avais le décodage. Donc j'ai éclaté de rire.
Ouais.
Et après, tout le monde voulait coopérer avec moi. Mais vraiment, parce que j'étais devenue du côté des dominants.
Mais bien sûr.
C'est dans les représentations un peu néo-dorphaliennes.
Dominants, déjà.
Et donc,
l'alpha, tu étais.
Mais au bout de 3 mois, ça s'est effiloché, parce que vieux réflexe. Alors dans mon agenda, j'ai programmé tous les 3 mois un mystérieux FCC, qui voulait dire faire colère en COMEX. Et je l'ai fait, et on a très bien coopéré. Et après, Franck, il a été un soutien formidable. On a créé le mouvement Eve pour le leadership des femmes. Non, il a été formidable.
C'est une belle anecdote, c'est une très belle histoire. Ça, je ne la connaissais pas. Mais je pense que peut-être elle a dû être suivie, je dirais malheureusement, par un certain nombre de femmes dans d'autres comités exécutifs pour se faire entendre aussi.
Il faut trouver un moyen, parce que c'est des schémas mentaux.
Tellement figés et préétablis. Alors, j'aimerais que tu parles de l'initiative, je sais, dont tu es très fier à juste titre, que tu as lancée chez Danone, Dan Cares, qui donne la priorité à la santé, au bien-être des employés. Et Danone est une entreprise, bien sûr, mondiale, et environ, je crois, 70% de ses employés vivent dans des pays émergents. Les systèmes de santé sont souvent coûteux, voire même très difficiles d'accès, en fait. Et en 2010, sous ta direction, Danone a lancé le programme Dan Cares avec l'objectif de fournir à tous les employés une couverture médicale de qualité ou des risques majeurs. Et il s'agit d'un projet d'une ampleur assez considérable, et je pense qu'à l'époque, il était totalement novateur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple ou, bien sûr, j'imagine, pas un chemin tranquille pour que le comité exécutif, voire le conseil d'administration, valide un tel programme, quoi, en fait?
Alors, Danone a historiquement, depuis Antoine Riboud, une conception sociale et économique, c'est ce qui s'appelle le double projet, très profonde et très enracinée. Et donc, quand je suis venue voir Franck et le COMEX en leur disant, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous, on fait de l'alimentation bonne pour la santé, etc., mais 70% de nos salariés n'ont aucune couverture santé. Couverture maladie, couverture 60%. Santé, couverture maternité.
Ouais.
On n'est pas cohérent. Il faut créer un socle.
Il faut créer quelque chose.
Et là, j'ai eu le go avant même. Le go de principe.
Avant même d'avoir un plan.
Avant même d'avoir le plan.
Quoi que ce soit.
Bon, après, évidemment, c'est la suite. Et donc, du coup, on l'a travaillé. Et évidemment, avec les équipes, la difficulté, c'était de comment faire. Puisque dans les pays où il n'existe pas de couverture santé, de couverture sociale, sauf pour des cadres dirigeants, mais c'est des systèmes très privés très différents, comment faire? Et donc, on a, pays par pays, cherché des partenaires. Et on allait du côté des assureurs sur le thème, écoutez, ça ne sera pas un volume de marbre, ce sera un volume de business qui vous assoira un volume dans ces pays. Oui. On a trouvé des partenaires. Tu connais bien ça parce que tu es le faiseur de partenariats.
Oui,
et c'est par les partenariats qu'on l'a fait. Et 90 000 personnes ont pu avoir une couverture. Ça a changé des vies. Alors, on ne s'est pas arrêté là. Mm-hmm. On s'est dit... Parce qu'au début, on l'a fait dans les pays volontaires.
Oui.
Sans trop regarder l'aspect financier. Oui. Puis on s'est dit, bon, ça va, quand on va généraliser, ça va coûter très cher.
Ouais.
Il faut être sûr, on était prêt à ce que ça coûte quelque chose, mais il faut qu'on mesure combien.
Ouais.
Donc on avait, avec les finances, on a mesuré dans tous les pays le ROI.
L'impact.
Et l'impact. Et le ROI était positif. Le retour sur investissement était positif.
Comment vous le mesuriez
alors? On a mesuré avec plusieurs critères.
Ouais.
La première, c'est, il y en a qui sont faciles. La baisse de l'absentéisme.
Bien sûr.
La baisse des accidents de travail, parce que les gens allaient au travail malades.
Malades, ok.
Donc, déjà, ces deux-là, c'est très chiffrable.
D'accord.
Mais on a divisé par deux. Hein.
A divisé par deux, carrément. Donc, c'était très...
C'était très important.
Oui, oui. Okay.
Deuxièmement, on avait un système de mesure du taux d'engagement chaque année, taux d'attractivité.
Ouais.
On a mesuré tout ça et il y avait un ROI légèrement positif.
D'accord.
Et la cerise sur le gâteau, c'est le jour où mon homologue DGRH d'un des autres grands groupes de l'alimentaire m'appellent en bon anglais et m'engueulent en disant c'est scandaleux ce que vous faites en Indonésie qui était notre pays pilote. Et je dis mais pourquoi? Il me dit vous faites du reverse social dumping.
Ouh là là.
Et alors je lui dis mais vous devriez être très content parce que si on est assez bête pour renchérir notre coût du travail, c'est bon pour vous.
Bien sûr.
Il dit absolument pas.
Ah bon.
Tous nos ouvriers veulent partir chez Danone et les cadres aussi parce qu'ils sont plus fiers.
Incroyable.
Et je dis écoutez, level playing film, vous faites la même chose,
on monte tous la même chose
et c'est réglé.
C'est ce qu'ils ont fait, ils ont
alors, eux, plus tard, mais il y a très vite, tout de suite, L'Oréal, et finalement, 300 groupes mondiaux
ont suivi
ce chemin, ont mis ça en place, ça a été répertorié par l'OIT, et quand je suis devenue ministre, les partenaires sociaux mondiaux, il y a des organisations mondiales, sont venus me voir en disant, comment on fait? On se rappelle Dan Kers. Donc, comment on fait pour pouvoir généraliser? Il y a 4 milliards de personnes qui n'ont pas de couverture santé dans le monde.
Ouais.
Comment on fait? Et donc, on a fait la première négociation qui a jamais eu lieu au G7, entre le G7 et les partenaires sociaux. C'est pas encore fait, chemin est long. Mais
sûr.
Une petite histoire bien menée a eu
une répercussion.
Donc, c'est une répercussion collective. Le nombre de gens qui ont été impliqués, qui ont été mobilisés, qui se mobilisent, qui en sont fiers aujourd'hui, pour moi, c'est joli ce qu'on a fait ensemble. Ça valait la peine.
C'est formidable de voir comment l'expérience d'une entreprise comme Danone a eu un effet amplificateur qui s'est propagé. Et de voir tous les autres pays et tous les autres secteurs qui ont suivi son exemple. De la même manière que nous pensons à l'empreinte écologique, nous devons penser à l'empreinte sociale d'une entreprise. Il s'agira de cartographier l'impact social de cette entreprise, mais aussi de l'ensemble de ses filiales sur tout son écosystème et toute sa chaîne de valeur. Danone a été l'une des premières grandes entreprises au monde à s'engager dans le mouvement B Corp, et vise la certification B Corp dans toutes ses unités commerciales mondiales d'ici 2025. Alors, j'aimerais maintenant que tu parles, parce que c'est un moment important de ta vie, c'est pas le seul, mais effectivement, quand tu es arrivé au gouvernement en tant que ministre du Travail dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, et tu as rénové en profondeur le Code du Travail avant de t'attaquer aussi à la formation professionnelle, à l'assurance chômage. Ton deuxième grand chantier, la loi Avenir Professionnel, a réformé l'apprentissage et la formation professionnelle. Créer aussi un indice pour mesurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et durcir les sanctions contre le travail détaché. Alors, avec le recul, parce qu'il y a eu plein de réformes que tu as menées, je sais de l'extérieur, parce que moi, j'ai jamais été en l'intérieur, que c'est pas simple de mener des réformes. En tout cas, on le voit bien en tant que citoyen, quand on est de l'autre côté, quand on regarde, on se dit, va-t-on réformer? Quelles sont les mesures dont tu es la plus fière, finalement, en termes d'impact que tu as vu dans le temps, parce qu'il y a le moment où tu fais ces réformes, où c'est pas simple. Et peut-être tu peux me dire une ou deux de ces réformes, en parler avec nous et de dire quelles ont été ces grandes luttes que tu as dû mener, parce que je pense que c'est jamais simple de faire ça. Et puis, pourquoi tu en es la plus fière, quoi, finalement?
Alors, j'irai deux réformes dont vraiment les impacts positifs sont visibles aujourd'hui, on récolte les fruits, et trois où on est à mi-chemin des fruits.
Oui, en cours.
C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que c'est plus long.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps. Les deux choses dont je suis très fière en termes de résultats visibles, c'est l'apprentissage et le compte personnel de formation.
Oui.
La réforme de l'apprentissage, on était en France, pour ceux qui connaissent la France, dans un pays où ça n'a jamais marché, et on disait c'est bien pour les Allemands ou d'autres. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Et on a pris le pari inverse. Moi, j'étais assez persuadée depuis longtemps, en travaillant sur les sujets de formation de capital humain, qu'il fallait faire une réforme de l'apprentissage. On a travaillé 4 mois avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec l'ensemble des acteurs. Et j'ai proposé à Emmanuel Macron et Édouard Philippe une réforme vraiment systémique. On a changé énormément toutes les règles de financement, les règles juridiques, la capacité des acteurs, entreprises, organismes de formation et jeunes à s'en saisir. Ouais, ouais. On a vraiment fait un reset. J'étais persuadée que ça marcherait. Je ne pensais pas que ça allait marcher aussi vite, aussi fort, ouais. Puisqu'on est passé de 230 000 à 830 000 jeunes en 4 ans, chaque année.
Chaque année, oui.
Chaque année, avec des taux d'insertion durable de 75%. C'est le meilleur des systèmes. Du CAP à l'ingénieur, c'est une particularité française. Mm. Et moi, encore aujourd'hui, on m'invite dans les CFA. Je suis devenue un peu la marraine de l'apprentissage.
C'est ça,
ouais. Et il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier pour ça. Et ça, ça me touche parce que j'ai visité tellement de centres d'apprentis avec des jeunes qui ont la passion dans les yeux et qui font des métiers de leur choix. Et si on a une passion, c'est formidable. Tout s'ouvre. Mm. Donc ça, j'en suis très, très fière. Collectivement, encore une fois, j'étais la chef d'orchestre, mais sans mon orchestre, j'aurais rien fait. Et il y a eu plein d'obstacles sur le terrain, des menaces politiques.
Le plus gros obstacle, ça a été quoi, en fait ?
Menaces politiques.
Menaces politiques, d'accord.
Oui, appel à la démission des présidents de région, sauf David Bertrand.
D'accord, bon, oui.
Voilà. Parce que dans la réforme, on leur retirait l'argent pour donner la liberté aux entreprises et aux organismes de formation. Donc, j'étais à abattre. Et certains m'ont expliqué que j'étais pas une vraie politique, parce que sinon, je savais très bien qu'il fallait se pâcher avec eux. Et moi, je leur répondais, écoutez, à 22% de taux de chômage des jeunes, je pense que c'est une erreur politique de ne pas s'occuper des jeunes. Voilà. Donc, celle-là, j'en suis très fière. Et l'autre, c'est le compte personnel de formation,
le CPF,
qui est une innovation française et simultanément singapourienne, sans qu'on se soit concerté.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on a pensé la même chose en même temps. L'évolution des compétences allait être le grand défi demain pour les entreprises et pour les individus.
Et ça va faire que s'accélérer. On en reparlera dans quelques minutes.
Voilà.
Parce que là,
donc je ne développe pas pourquoi, mais je sais qu'on le partage.
Il y a un bon levier.
Donc, il faut bien sûr que les entreprises agissent, les pouvoirs publics, mais il faut aussi équiper chacun, il faut empowerer chacun, il faut armer chacun, il faut que chacun puisse avoir du choix. Sinon, les gens seront juste victimes et n'ont pas en capacité de choisir leur vie, d'où le titre de la loi, la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc, on a ouvert ce droit, en mutualisant l'argent qui vient des entreprises, et qui 500 euros par personne pour chacun des 25 millions de salariés d'indépendants en France, et en ouvrant un système qui leur permet d'accéder à des dizaines et dizaines, même centaines de milliers de formations qui toutes préparent à un titre un titre ou un diplôme, sauf le permis de conduire que j'ai mis, parce que c'est le premier accès à l'emploi.
Je sais que beaucoup de gens, ça paraissait étonnant, mais en fait, bonne justification, je te laisse la donner. Parce que...
Voilà, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer le permis, et c'est leur frein numéro un à l'emploi. On a rajouté le permis comme un titre professionnel.
Et tu as pu mesurer ça ensuite?
Et alors, on a déjà...
Le permis ou d'autres formations
On a un peu le recul. D'abord, on m'avait dit, mais il n'y a que les cadres qui vont en formation, les autres n'ont pas d'appétence, il n'y aura personne, etc. Eh bien, sur les 7 millions de Français qui l'ont déjà utilisé pour se former, d'abord 90% sont satisfaits. Des formations qu'ils ont faites, et disent que ça les a aidés pour leur vie professionnelle, employabilité, promotion, changement de métier, changement de vie.
Ouais, complètement.
Et puis, 80% sont des ouvriers ou des employés, 50% sont des femmes, et 20% sont des seniors, c'est-à-dire tous ceux qui n'accèdent quasiment pas aux formations en entreprise. Donc, le côté émancipation sociale et le côté élévation des compétences de la nation, à un moment donné, on est dans les choux, voire PISA, je considère. Alors, c'est encore très controversé, parce qu'il y a des gens qui disent ça coûte cher. Puis, pourquoi on donne la liberté aux gens? On n'a qu'à leur dire ce qu'ils ont à faire. Moi, je crois qu'une démocratie sans liberté, ça ne marche pas.
Autonomiser les gens, absolument.
Voilà.
Les rendre responsables de leur futur, leur destinée.
Et puis, les trois qui ont marché, mais qui ne sont pas au bout. La réforme du Code du travail, alors sur la confiance que ça a créé, notamment chez les PME, ça a été immédiat. Moi, j'allais partout en France et les entreprises me disaient, mais ça y est, on n'a plus peur d'embaucher. Et d'ailleurs, la baisse du chômage a été significative après. Par contre, sur un autre aspect de cette réforme, qui donne plus de pouvoir des négociations dans l'entreprise et moins de règlements au plan national, c'est-à-dire d'aller plus vers les pays nordiques, on va dire, comme modèle, les cultures n'ont pas encore complètement changé. Il y a plus d'accords, 20% d'accords en plus. C'est déjà bien, on sent dans l'esprit, on n'est pas encore. Sur l'égalité femmes-hommes, je suis très fière de ce qu'on a fait là aussi collectivement, de créer une obligation de résultat pour les entreprises. Il y a un index pour le mesurer, l'index égalité pro. Ouais. Et je dis qu'on est à mi-chemin, on a été à 82 points sur 100 en moyenne. Mmh. On est monté à 88 en 4 ans, mais l'égalité réelle, c'est 100.
Donc, c'est 100, il y a encore...
Je suis contente du chemin parcouru, mais je pense
ceux qui
qu'il
sont
faut
en cours encore de,
mettre des
en
accélérateurs. Voilà. Et puis, sur l'inclusion, on a fait beaucoup de choses sur l'accueil des... faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap, en situation sociale difficile. Là aussi, on a besoin que les entreprises... Enfin, il y a des entreprises très, très engagées sur ce sujet.
Et d'autres qui sont
et d'autres qui considèrent que non. Donc, bon, je considère que c'est positif.
Oui,
mais
dans
c'est
bonne
pas,
direction, mais c'est...
Ça n'a pas encore changé complètement le paysage. Quoi.
Faut accélérer. Alors justement, Muriel, on bascule volontairement, parce que c'est un peu ta vie, hein, entre modèle public, modèle privé. Mm. Si tu étais nommé demain CEO d'une grande entreprise du CAC 40, tu choisis laquelle? Je ne te demande même pas de nous dire laquelle. Mais bon... qu'est-ce que tu ferais, justement, pour que cette fameuse diversité, sous toutes ses couleurs, hein, d'ailleurs, homme-femme étant le premier niveau, malheureusement, j'allais dire un peu basique, qu'on trouve comme mesure dans beaucoup d'entreprises, mais encore faut-il y arriver. Mais tous les autres, tu as mentionné le handicap, il y en a plein d'autres, bien sûr.
Oui, les origines sociales, les origines ethniques.
Qu'est-ce que tu ferais en tant que CEO pour changer la donne et faire de cette entreprise, quelle qu'elle soit, le rôle modèle un petit peu des entreprises qui... allie cette performance économique, sociale, environnementale, mais surtout cette partie diversité, mixité au sens plus large du terme.
Oui. Alors, d'abord, je pense que aujourd'hui, on est aidé dans les entreprises par la demande des jeunes. La demande des jeunes, ils exigent de la cohérence. Enfin, on reparlera peut-être de ça. Ce qu'ils exigent, l'écologie, mais aussi la diversité et de l'inclusion. C'est un critère. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Je pense que il y a pas mal d'entreprises, même si ce n'est pas la majorité, qui sont très engagées sur l'inclusion, mais c'est plutôt des décisions de direction générale.
Oui.
Ce qui est bien. Il faut, sans ça, ça ne marche pas.
Et
ça ne suffit pas.
Mais
je pense que la vraie clé, c'est de pouvoir embarquer tout le monde à tous les niveaux. D'abord, plein de gens dans l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, ont eux-mêmes sont confrontés à ça.
Totalement.
Pour eux, pour l'entourage, pour leurs proches, leur vécu.
Le salarié.
Mais souvent, il y a plein d'ailleurs qui sont militants dans des choses à côté.
Ouais.
Mais qui ne le disent pas.
Qui ne le disent pas au sein
de leur travail.
Ouais, ouais.
Et je pense qu'il faut... alors, ça peut être du mécénat de compétences, ça peut être participer à des projets. Je pense qu'il faut faire des grands programmes impliquant les gens, parce que je pense que ça donnera
ensemble.
La base.
Ouais.
Ça donnera de la fierté dans l'entreprise, de l'attachement à l'entreprise, et puis ça sera beaucoup plus efficace, parce qu'ils vont amener plein d'idées.
De la formation, c'est...
Je pense que c'est de créer des programmes où ils peuvent participer, ceux qui veulent, sur un volontariat, et je suis sûre qu'il y en aurait énormément, et où c'est valorisé dans l'entreprise et non pas caché.
D'accord.
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et les temps ont changé là-dessus, et c'est bien, qui ne veulent pas opposer ma vie professionnelle, ma vie de citoyen. Je trouve que je suis une seule personne et j'ai envie de tout faire à la fois.
Le chinois, il est en train de
voilà, il se lézarde, en tout cas.
Petit à petit. Totalement.
Pas tout complètement. Et donc, si on dit, dans l'entreprise, tu peux passer un jour par mois pour participer à un projet, je suis sûre que ça ne diminuera pas la productivité.
Oui, oui.
Et je suis sûre que ça augmentera l'engagement. Donc, je pense qu'il faut que... Et des projets, y compris qui peuvent être proposés par des collectifs de salariés. Je pense qu'on a un réservoir d'engagement. Et au moment où tout le monde se plaint en disant « mais les gens ne sont plus engagés dans l'entreprise », oui, mais il faut aussi que l'entreprise aille vers leur terrain d'engagement si on veut que ça marche.
Les avantages des programmes de bénévolat d'entreprises bien conçus ont été clairement établis. Ils stimulent la productivité. Ils augmentent bien sûr l'engagement des employés et ils vont améliorer l'embauche et la fidélisation des équipes. Mais trop souvent, les programmes des entreprises ne sont pas vraiment à la hauteur. Ces programmes copient aveuglément ce que font les autres entreprises, donnent la priorité aux projets favoris des dirigeants, quelquefois, ou même font pression sur les employés pour qu'ils participent, rendant ainsi le bénévolat obligatoire. Et de telles erreurs vont diminuer la valeur de tels programmes pour l'entreprise, les employés et la société, bien sûr. Au contraire, les entreprises devraient se donner la priorité d'équilibrer la structure descendante avec la passion tout simplement naturelle des équipes et chercher à impliquer une variété de parties prenantes dans les initiatives qui sont alignées avec leur mission. Alors, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose qui te passionnait toute jeune, puisque tu disais que tu aurais aimé être enseignante finalement, c'est l'éducation. Je sais que c'est un gros sujet et qu'on a une passion commune aussi là-dessus.
Ouais.
Et j'ai récemment parlé à Sal Khan, tu sais, de la Khan Academy, le créateur de la Khan Academy, sur ce podcast d'ailleurs, sur le but ultime de l'éducation, qui, selon lui, est de permettre aux gens d'avoir une vie heureuse et pleine de sens. Hein, c'est ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette définition.
Moi aussi.
Mais pour ce faire, nous devons évidemment aider tout le monde à acquérir des compétences dont chaque personne a besoin pour grandir, prospérer dans une économie de plus en plus numérique, notamment. Et cela inclut le fait d'être un apprenant, finalement, tout au long de sa vie. Il y a 20 ou 30 ans, une compétence technique, tu le sais mieux que moi, était considérée comme valable pendant 30 ans. Voilà, clairement, on prenait un métier.
Chiffre de l'OCDE.
Voilà, tu connais ce chiffre. Cela signifiait donc qu'on avait des connaissances pendant la majeure partie de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, en moyenne, une compétence technique est considérée comme valable 2 ans et bientôt, ce sera 8 mois.
En tout cas, dans la tech, je pense qu'on y est déjà.
On y est déjà à la tech. En tout cas, dans notre secteur, ça semble en cette, dans cette direction-là. Alors, formation tout au long de la vie intégrée à sa vie quotidienne, c'est quelque chose d'essentiel. Tu nous as parlé justement du compte personnel de formation, qui est un formidable outil pour aller dans cette direction-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. On en parle de temps en temps ensemble aussi, sous d'autres cieux. De grands modèles de langage, bien sûr, ChatGPT, Copilot de Microsoft. Alors, comment ressens-tu l'impact de l'IA générative sur la capacité des gens à suivre une formation tout au long de leur vie, finalement à se réinventer? Quel rôle pourrait-elle jouer, cette intelligence artificielle? Est-ce que ce sera un rôle d'ailleurs positif ou es-tu très inquiète de ce rôle aussi?
En fait, il y a deux choses. C'est que l'IA, comme transformateur du monde économique et sociétal, demande des besoins de formation, est en même temps un outil pour ça. Donc, transition écologique, démographie et IA vont changer complètement le monde du travail, sans compter le rapport au travail qui a changé. Mais du côté de l'usage de l'IA, je pense que si elle est bien maîtrisée pour éviter, alors on sait très bien tous les biais qu'il y a, enfin, il y a toutes des choses qui sont répertoriées. La question, c'est comment les réguler, qui n'est pas très facile.
Oui.
Mais si on évite ces biais-là, ça peut être un outil. Je discutais récemment, par exemple, avec une association qui accompagne des enfants autistes. Ils utilisent déjà l'IA.
Oui, totalement.
Parce que, comme la relation est compliquée, alors, si, pour aller vers la relation, mais ça permet un détour personnalisé
totalement.
Qui met en confiance.
Oui.
Donc, voilà, juste un micro-exemple.
Oui,
donc, je pense qu'il faut aller... D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de lier IA et écologie parce que ça peut aider à l'accélération des solutions, mais IA et inclusion.
Inclusion.
Pour les mêmes raisons.
Oui, totalement.
Donc, si, de toute façon, la vague, elle arrive. Donc, aux uns et aux autres, de l'utiliser aussi.
Comment bien l'apprendre, alors,
comment bien l'apprendre. Et puis, alors, dans l'éducation elle-même, bon, chez Galileo Group Education, où je suis membre du board, en ce moment, ils font des expérimentations intéressantes. Oui. Alors, c'est de l'enseignement supérieur, mais on pourrait très bien faire ça au lycée aussi, où les jeunes, avant d'arriver au cours, ils vont voir la somme de ce que dit l'IA sur un sujet donné qu'ils vont étudier.
Ils étudient donc, avec en dialogue.
Ils étudient avant. Mais c'est pas la fin, c'est le début du parcours.
C'est le début.
Et ça, je trouve ça très astucieux. Parce qu'après, ils vont les questionner. Alors, questionner les sources. Pourquoi ça résonne comme ça? Et si on avait posé la question autrement, est-ce que ça serait autrement? Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense?
Et
débat critique.
Et
donc,
quel est le rôle de l'enseignant alors, dans ce cadre-là?
Du coup, c'est l'animateur d'un débat de questionnement et de débat critique pour amener sa propre pensée.
C'est vraiment développer l'esprit critique.
C'est développer l'esprit critique. Et donc, ça peut devenir un outil d'apprentissage à un débat démocratique,
si on l'utilise
comme ça.
Oui, ça, c'est très différent.
Voilà. Alors, évidemment, si on remplace des profs en leur disant aux jeunes, débrouillez-vous avec l'IA, bon, là, c'est n'importe quoi.
Non, c'est clair.
Il faut la médiation humaine est essentielle.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, je pense que c'est vraiment comment on invente ces usages. Et je pense qu'il faut. D'une certaine façon, faire de l'appel à l'innovation technologique, mais en même temps, l'appel à l'innovation éducative et inclusive en utilisant l'IA tout en l'abordant sur d'autres aspects qui sont peut-être dangereux sociétalement.
Non, je te rejoins tout à fait, Muriel. Bon, même si on n'en est qu'au début, mais ça va très vite. Ça va très vite. Et je pense que toute approche, quels que soient les établissements d'enseignement, d'éducation primaire, secondaire, public comme privé que je vois dans le monde, qui associe d'abord l'ensemble des équipes pédagogiques, ce qu'on appelle un peu le back-office, l'encadrement, le parcours des étudiants, des jeunes à l'école, etc. Et les enfants et leurs parents, d'ailleurs aussi, je pense que ça sera important pour les petits notamment, va être essentiel dans la bonne intelligence appropriation de cet outil en tant que copilote et pas en autopilote.
Absolument.
En copilote de l'apprentissage.
C'est un peu comme la finance, bon serviteur, mauvais maître.
Ouais, exactement. Donc, je pense qu'on se rejoint un petit peu sur la philosophie, en tout cas, du bon usage. Alors, une autre chose qui a radicalement changé au cours des dernières années, en particulier, sans doute, depuis la pandémie, on s'en est bien aperçu, c'est notre relation au travail, le sens du travail dans nos vies. Je pense que tu l'as vu comme moi, un peu partout. Moi, je l'ai vu dans le monde entier, États-Unis, je rencontre plein d'acteurs dans le monde entier comme toi aussi. Et les recherches montrent que de plus en plus de personnes souhaitent travailler pour des entreprises qui ont d'abord une véritable mission, pas juste un beau slide, hein, qui a des beaux mots, mais qui la sentent vivre, et dont la raison d'être s'aligne sur la leur, finalement, entre leur raison d'être personnelle, où ils trouvent une façon de s'accomplir. Donc, par conséquent, probablement, il faut repenser radicalement la façon dont on va définir les entreprises, enfin, radicalement, la faire évoluer, en tout cas. Et je recevais, il y a déjà quelques temps, quelqu'un que tu dois connaître, peut-être, je ne sais pas, Hubert Joly, peut-être tu l'as sûrement rencontré, Hubert. Hubert, comme tu sais, maître de conférence à l'Harvard Business School, et ancien PDG de Best Buy. Et la clé, selon lui, est que les dirigeants poursuivent un objectif noble, j'utilise ces termes d'Hubert, mettre les gens au centre de l'entreprise et traite le profit comme un résultat, pas comme un objectif. Alors, une grande question pour toi. Que penses-tu de l'évolution du rôle des entreprises dans leur engagement sociétal, qu'il soit environnemental, on a parlé de social et gouvernance, hein, les fameux ES et G. Et est-ce un engagement, alors c'est un jugement, comment dire, à haut niveau, un peu large, est-ce que c'est un engagement, on appelait anciennement RSE, qui va évoluer vers l'ESG, que tu juges cosmétique, marketing, ou bien est-ce que tu es convaincu que les temps ont changé, sont en train vraiment de changer, et que l'entreprise est en train d'assumer finalement une responsabilité plus large, pas simplement financière, parce qu'il faut qu'elle persiste, qu'elle grandisse et qu'elle puisse aussi rémunérer ses actionnaires, c'est une évidence, mais aussi qu'elle puisse assumer ses responsabilités environnementales et sociales. C'est une grosse question.
Alors moi, je pense qu'on commence à avoir et qu'on va avoir un choc de deux modèles. Parce que il y a quand même, alors toi comme moi, on milite pour des entreprises qui ont compris que l'humain est au cœur et c'est le potentiel et c'est pas juste un moyen interchangeable. Donc l'individu et le collectif, c'est pas que du management individuel, c'est aussi du management d'équipe. Et comme Antoine Riboud m'a beaucoup inspiré, c'est pour ça que j'avais rejoint Danone qui s'appelait BSN à l'époque, parce qu'il disait déjà en 1972 un discours qui avait fait hurler le patronat français de l'époque. Voilà, les ressources de la planète sont limitées, donc il faut les régénérer, et qu'on n'a qu'une vie, et donc on doit prendre soin du bien-être de chacun.
Mais non.
Voilà, donc maintenant qu'on se projette aujourd'hui, je vois moi une partie des entreprises qui, au-delà de l'aspect cosmétique ou l'aspect normatif de la RSE, sont vraiment engagés. Alors, ça prend du temps, c'est compliqué, parce que la mise en cohérence est quand même compliquée. Oui. L'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Bond, disait, à juste titre, il y a la tragédie des horizons. L'horizon social, écologique, et économique et financier n'est pas le même. Donc c'est un art de piloter ces transformations.
Des horizons temps différents.
C'est pas facile. Mais quand même, elles y vont. Et d'autres qui sont presque dans le durcissement externe et qui agitent les politiques là-dessus, on n'a que voir dans... aux États-Unis, selon les États, il y a des endroits maintenant où l'ESG va être interdit.
Totalement.
Alors que d'autres, c'est radicalement dans l'autre sens. Donc, quand on voit la COP sur le climat, c'est pareil. Donc, il y a une repartage des lignes, parce que pendant longtemps, finalement, il y avait l'entreprise dont juridiquement l'objectif était le profit pour les actionnaires, mais qui quand même faisait aussi d'autres choses avec son environnement, ses territoires, ses parties prenantes, gentiment, ça a évolué dans ce sens-là. Et maintenant aussi, parce que il y a les attentes des jeunes d'un côté et des salariés, et parce que les normes se durcissent, du coup, faut un peu choisir son camp quand même.
Plus en plus,
je trouve que les débats sont plus forts, et je vois des tensions dans pas mal d'entreprises internationales qui certains disent ça va trop loin, il faut arrêter. On repart à ce que était l'entreprise, un système de création de valeur, l'actionnaire est premier, on peut traiter correctement les salariés, mais enfin bon, et on fait ce qu'on peut pour la planète, enfin bon, c'est secondaire. Et d'autres qui disent il faut radicalement changer de modèle, Hubert est joli, et qui dit il faut mettre la préservation des ressources et le développement des personnes au sein. Moi, je fais partie du deuxième groupe, évidemment.
C'est évident,
mais je pense que ça va être une bataille qui se joue aussi bien au niveau des gouvernements que des entreprises et dont l'issue, je ne la connais pas.
D'accord. Et tu sens que c'est une bagarre aussi, j'allais dire presque géopolitique, de continents, de pays, parce que au sein des pays, il y a des différences, mais on voit que l'Union européenne a quand même une ADN assez marquée.
Alors, là où c'est le plus cohérent, c'est l'Europe.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir, même si c'est extrêmement difficile de faire l'Europe. Mais c'est normal, c'est un acte volontaire de coopération de pays qui ne sont pas obligés de coopérer. Donc, c'est quand même c'est un beau pari.
Ça, c'est de la collaboration.
C'est de la collaboration, là. Bon, mais enfin, bon, c'est un peu rugueuse. Parce que si l'Europe arrive, par exemple, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, hein, à avoir des normes qui s'imposent, y compris à tout ce qui est entrant, par exemple, des normes sur le plan social ou environnemental, personne ne peut se passer de 500 millions de consommateurs, donc des stratégies mondiales. Si elle n'y arrive pas, ça va être très, très chaotique.
Bon, il y a de l'espoir. En tout cas,
tant qu'on est vivant, il y a toujours de l'espoir.
Non, non, mais je le partage avec toi. Alors, pour prolonger un peu cette discussion, Muriel, moi je suis assez convaincu que ce virage, ce changement qui se fait dans un certain nombre d'entreprises, de pays, sur cette responsabilité finalement partagée de l'entreprise dans ces trois univers dont on vient de parler, c'est aussi le fait de personnalité, c'est aussi le fait d'un état d'esprit, de leadership, voire fondateur de l'entreprise. Alors, c'est le cas de quelqu'un que je connais bien, je le cite parce qu'il a été dans le podcast aussi, Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classroom, parce que c'est une très belle entreprise à mission.
Beaucoup soutenu quand j'étais ministre.
Voilà, comme tu sais, belle entreprise à mission, vraiment un très beau flambeau. Il se trouve que c'est public, donc je suis président de leur comité de mission maintenant, donc je vois de l'intérieur le travail qu'ils font, et je trouve que c'est superbe. 80%, je le dis parce que je suis fier pour ce qu'ils font, de leurs clients sont des publics dits fragiles quand même.
Oui, oui. Et 80%. Beaucoup à travers le CPF.
Totalement, absolument. Et d'autres dispositifs
de
l'État et d'autres pays aussi parce qu'ils deviennent entreprises globales, ce qui est très bien pour eux. Voilà, donc les entreprises à mission, c'est un équivalent. Mais je veux dire, tu vois qu'il y a des dirigeants, lui il avait 13 ans avec Mathieu, donc quand il a créé la boîte. Et je suis convaincu quand tu les observes, tu regardes leurs caractéristiques, qui portent en eux ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai nommé ainsi, le leadership positif. Voilà. Leadership positif que j'étudie dans ce podcast. Hein, moi, j'apprends en vous écoutant les uns les autres.
En pratiquant aussi.
J'essaye de pratiquer aussi parce que j'avoue que j'aime beaucoup au sein de l'entreprise puis aussi au sein de mon association et d'autres univers parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire avec les pouvoirs de les soft skills un petit peu, ce leadership positif. Alors, est-ce que tu partages ce point de vue et est-ce que tu penses que il est nécessaire finalement de développer, d'élever un nouveau type de leadership. Et je ne parle pas que du monde de l'entreprise d'ailleurs, c'est aussi bien dans le monde politique, secteur public, associatif, etc. Pour les années qui viennent, compte tenu des défis auxquels on est confronté, dont on a parlé. Et quel conseil donnerais-tu finalement à certains de nos éditeurs qui sont peut-être sur le point d'assumer un rôle de leadership, quel qu'il soit.
Alors, je pense d'abord que le leadership est en train d'évoluer et va évoluer sous deux effets. D'abord, vraiment les attentes des jeunes.
Absolument.
Comme toi, je rencontre beaucoup de jeunes dans beaucoup de pays du monde. Alors, sur le leadership, c'est encore plus unanime que sur le sens.
C'est clair.
C'est en clair, un leadership qui est top-down, autocratique, ça ne passe plus du
tout. On ne veut plus.
Plus, il y a une attente d'authenticité. C'est-à-dire, le dirigeant doit incarner
vulnérable, ce qu'il dit. Authentique.
Donc, vulnérable, présent, approchable, présent, humain, sincère. Donc, ça, c'est...
On revient au mur, les ardés, vie personnelle, professionnelle, tu vois.
C'est ça, aussi. Absolument.
C'est-à-dire, finalement, qu'il partage, elle partage.
Sinon, il n'est pas audible.
Ouais.
Donc, ça, c'est quand même un gros changement.
Énorme.
La deuxième, c'est qu'on lui demande moins d'être un boss et plus un coach.
Oui.
C'est-à-dire coach individuel et collectif pour faire grandir les équipes et les faire réussir ensemble. Donc, il n'est pas forcément le sachant. De toute façon, comme on l'a dit, plus personne ne sait. Donc, pour demain, ça va trop vite. Donc, ça tombe bien, il y a un autre rôle.
Oui,
mais bon, il y a toute une génération de managers pour lesquels le passage de l'un à l'autre, ils perdent, violent parce qu'ils perdent, eux, leur légitimité et ils ne savent pas forcément comment faire. Puis la troisième chose, c'est quand même le management de l'incertitude. Parce que Edgar Morin a une très jolie phrase que je vais paraphraser, mais qu'on disait l'avenir est une mer d'incertitudes sur lequel nous allons d'îlot en îlot pour se reposer de temps en temps. Il dit ça encore mieux que ça, mais c'est à peu près ça. Et c'est certain qu'avec la vitesse, la transformation, des transformations à la fois écologiques, IA et géopolitiques, démographiques, honnêtement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on sait qu'on ne le sait pas. Le risque, du coup, pour les leaders, c'est d'être totalement court-termiste en disant il n'y a que l'agilité d'adaptation à court terme qui va compter. Elle va compter.
Ouais.
Mais c'est de perdre la vision. Et la vision, c'est quand même ce qui façonne le monde, hein, ouais. À condition de le mettre en acte après.
L'exécution.
Donc, je pense que du coup, pour les dirigeants, d'abord, on ne peut pas être dirigeant seul. Il faut s'entourer, il faut discuter, il faut échanger, il faut accepter sa vulnérabilité, il faut réfléchir avec d'autres pour pouvoir se dire, bah, voilà, on va prendre ce pari-là, dans ce contexte-là, ok. Peut-être qu'on se trompera, mais on corrigera.
On fait ça ensemble.
Mais on le fait ensemble. Mais c'est mieux que du coup, je ne prends le pari de rien. Je sais à court terme, eh bien, je fais à court terme et je ne me occupe pas du reste.
Petite étape,
ce qui est une tentation. Donc voilà, il y a la sincérité, mais il y a aussi cette audace d'avoir une vision et une stratégie.
Alors qu'en
acceptant l'incertitude. Voilà.
J'aime ce triptyque de Muriel. Être authentique, être coach et être stratégique dans sa réflexion. Et bien qu'elle demande du temps, des efforts, de l'engagement, la planification stratégique présente des avantages évidents. Elle va créer une vision unifiée, permet de suivre les progrès réalisés et met l'organisation sur la voie à la réalisation de ses objectifs à long terme. Être coach, c'est pour moi une des valeurs les plus importantes. J'ai d'ailleurs un épisode entier qui contient des conseils pratiques sur la façon dont vous pouvez devenir un leader qui ressemble davantage à un coach. C'est dans la leçon 5 des 9 Powers of Positive Leadership qui s'appelle « Coaching for Good ».
J'aimerais qu'on revienne, Muriel, cette phrase, tu as utilisé le titre de ton premier livre, « Pousser les murs ». Comment chacun d'entre nous peut-il pousser les murs ? Alors, comment des personnes ordinaires, qui ne sont pas dirigeants d'entreprise comme moi, ministres comme toi, dirigeantes, etc., peuvent commencer à avoir un impact en tant que citoyen, en tant qu'employé, dans leur vie. Et quelle est, selon toi, la meilleure façon pour eux de commencer à bâtir cet impact ?
Moi, je l'ai vécu, puisque j'ai été pendant très longtemps à des niveaux de responsabilité faibles et j'ai essayé avec d'autres d'avoir de l'impact. Mais je pense que le point positif aujourd'hui, on l'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se résignent pas. Et moi, j'ai été frappée quand j'étais ministre, je le suis encore aujourd'hui. J'ai sillonné la France tout le temps, toute la semaine, j'étais sur le terrain et je voyais plein de gens qui se remontaient les manches, qui inventaient des trucs. Ok, dire mais on fait que ça, mais c'est énorme parce que c'est l'immense dynamique de tas de gens en mouvement, c'est énorme, même si c'est pas embrigadé dans un seul mouvement,
absolument,
qui n'est plus à la mode du tout. Non. Voilà, c'est un peu passé de mode ça. Et donc, je pense que lorsque c'est quelque chose qui est vraiment important pour soi, qui fait sens pour soi, d'abord on est plus convaincant, mais surtout les obstacles, les impossibilités, on les surmonte.
On les
surmonte parce que c'est vital pour soi aussi, parce que ça a du sens.
Non, j'aime beaucoup cette. Et je dirais dans le leadership positif, c'est le premier cercle, c'est la psychologie positive qui parle de moi. On demande à chaque personne, quel que soit son âge, alors peu importe, et quel que soit le rôle que la personne, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à essayer éventuellement de définir sa mission, sa raison d'être, son pourquoi. Pourquoi on est là aujourd'hui et maintenant, pourquoi on est là et pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on passe toute cette énergie qu'on a, on l'espère positive pour faire quoi. Et si on démarre par ça déjà et qu'on arrive à analyser avec le regard des autres ses passions, ses forces.
Et du coup, la confiance en soi aussi, parce qu'elle est liée à la passion.
Essentielle.
C'est pas juste le regard des autres.
Non.
C'est le moteur interne.
Alors, on arrive presque à la fin, mais j'ai encore 2-3 questions à te poser quand même, Muriel, parce que c'est passionnant. Tu sièges, comme je l'ai dit déjà, à plusieurs conseils d'administration, dans Manpower Group, Galileo Global Education. Et bon, à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure, alors notre pays est rétrogradé dans le dernier classement en maths de PISA. Une autre ministre d'éducation annonce un nouveau plan pour réagir. Quelle est ta vision, alors c'est une grande question aussi, pour l'éducation notamment, mais on va focaliser quand même sur l'enseignement supérieur. Selon toi, que faut-il changer, s'il faut changer quelque chose, pour aligner finalement, ce que je pense profondément, des aspirations de la jeunesse qui ont énormément changé par rapport au monde dans lequel on vit, et pas simplement en France, aux quatre coins du monde, et les opportunités qu'ils ont, qu'ils n'ont plus ou qu'elles n'ont plus demain. Ça passe par quoi, ça ?
Alors, je dirais pour... je vais revenir à l'enseignement supérieur, mais il faut surtout investir beaucoup sur le primaire et le collège aujourd'hui. Enfin,
démarrer par ça.
L'équivalent de 3-15 ans pour les autres pays.
Oui.
On a besoin de pilotes. Il y a des écoles qui font autrement. Par exemple, Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, ils ont créé l'école du domaine du possible, où les enfants... Mais vraiment, j'y suis allée plusieurs fois. Le degré d'épanouissement des enfants... Et comme par hasard, les résultats arrivent aussi. aussi niveau scolaire classique, ouais, mais où chacun est important, on accepte la différence, on accepte les handicaps, on accepte les passions, et où la musique, la nature, tout est mobilisé, tout est mobilisable, ouais, parce qu'il y a à la fois l'intelligence analytique, l'intelligence sensible. L'intelligence émotionnelle et relationnelle qui est développée. C'est un peu ce qui se passe en Finlande aussi. Donc je pense qu'il faut... Il faut d'urgence, je pense que ça va plutôt dans la bonne direction, mais pouvoir mobiliser et aider le corps enseignant dans ce sens-là, parce que sinon on va avoir des générations d'enfants qui sont complètement dans les choux d'un point de vue, point de vue niveau scientifique, écriture, lecture, très dangereux pour la démocratie, mais aussi qui sont un peu dans les choux sur le plan des aptitudes sociales et des aptitudes créatives qui vont être tellement vital demain. Donc, alors, ce qu'on va à l'enseignement supérieur, sur l'enseignement supérieur, je pense qu'aujourd'hui, on a d'abord besoin d'avoir une vitesse d'innovation qu'on arrive à avoir dans le secteur privé, mais beaucoup plus difficilement dans l'université publique. Elle en a besoin et il y en a qui ont envie de le faire. Donc, il faut créer des cadres expérimentaux, des cadres d'innovation et il faut permettre aux jeunes de l'enseignement supérieur à hybrider des parcours de deux façons, hybrider internationalement, Erasmus généralisé, si j'ose dire, y compris dans l'apprentissage de l'enseignement supérieur, dans l'apprentissage fait en enseignement supérieur. Et puis l'autre, c'est l'hybridation des parcours. Par exemple, chez Galileo, comme il y a des écoles de management, de business school, des écoles d'art et des écoles de numérique,
c'est mêlé, c'est
il y a des parcours. Parce que pour quelqu'un qui va être demain à travailler dans une entreprise, avoir aussi pu développer une approche sensible et artistique ou digitale, ça va être essentiel pour comprendre le monde de demain. Donc, je pense qu'il faut des choses, des cadres qui permettent des parcours beaucoup plus individualisés et où on accepte aussi... ça se fait dans certaines écoles, dans certains cursus, mais pas partout. Et dans l'université, a beaucoup de mal avec ça. Des gapieurs, des aller passer deux mois, six mois dans l'humanitaire, le sport, la culture, ou
début peut-être d'une entreprise,
Créer une start-up, prendre en cours. Voilà. Donc ça, dans les écoles d'enseignement supérieur, c'est souvent possible. Mais il faut que ça le soit dans l'université.
Dans l'université, absolument. Bon, c'est un gros sujet de toute façon. Alors, tu as parlé d'art à plusieurs reprises. Je sais que tu dévores les livres, littérature, mais pas seulement. Les arts ont joué un rôle important et continuent à jouer un rôle important dans ta vie. Tu es d'ailleurs une photographe passionnée, et toi-même une grande photographe, parce que j'ai vu quelques-unes de tes œuvres, pas tout, mais quelques-unes. Et tu as exposé ton travail d'ailleurs à Paris, en Chine, au Japon. Et tu as dit d'ailleurs que l'un des aspects les plus difficiles de ton travail de ministre, c'était de ne plus pouvoir exposer tes photographies à l'époque. Mais maintenant, c'est révolu, ça.
Le plus difficile, c'était les menaces de mort et l'assassinat sur les réseaux sociaux.
On va relativiser.
Mais le plus frustrant.
Le plus frustrant, ce qui est pas pareil. C'est frustrant.
Oui, parce que quand on est photographié, c'est difficile de photographier, même si j'ai pris des photos de photographes.
Tu en as pris aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, tu as un peu plus de temps quand même si tu as plein d'activités, bien sûr. Mais je dirais que c'est un âge un peu différent.
Mon temps est moins contraint, je le choisis.
Oui, tu le choisis plus, exactement. Et tu as d'ailleurs créé déjà depuis 2012 un fonds philanthropique, Sakura, pour soutenir des artistes engagés sur des questions sociales et autres. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la photographie, le fonds Sakura, finalement l'art, on pourrait dire de manière générale, sont quelque chose d'essentiel pour toi et l'impact que tu souhaites obtenir par ce partage aussi culturel, personnel, mais aussi d'œuvres d'autres artistes. Qu'est-ce que tu recherches avec ça?
Alors, d'abord, ça revient à la question de l'engagement tout à l'heure. Ça fait partie des... Il y a deux choses essentielles pour moi. Il y a cet engagement sociétal, socio-économique. Et puis, il y a la dimension création et art. Donc, d'abord, c'est juste partager quelque chose qui est important pour moi. Mais bien au-delà de ça, je pense justement qu'à toutes les périodes de l'humanité, mais encore plus aux périodes charnières où ça se bouscule vraiment très violemment, ce qui est le cas aujourd'hui, qui va l'être encore plus dans les années qui viennent. On a besoin collectivement d'esprits libres qui ressentent plus fortement, qui pensent autrement, qui utilisent d'autres connexions, d'autres détours, d'autres analyses. Le cerveau fonctionne pas pareil. La sensibilité est exprimée en premier et pas en second. Et avec, encore une fois, des autres modes d'appréhension du réel et du sensible. Parce que, je dirais, c'est quelque chose sur lequel, moi, je rêve que tous les enfants soient artistes. À 5 ans. Que tout le monde puisse développer, pas devenir des artistes professionnels, mais puisse développer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a vu d'abord que ça fait des connexions à tout le reste. Poésie, maths et musique, c'est connu maintenant. Les sciences cognitives vont le prouver. Donc, pour ces raisons-là, mais aussi parce qu'on va avoir besoin d'un tel effort d'imagination collective pour inventer de la suite, que si tu n'exerces jamais ton imagination, sauf à consommer des choses qu'on te donne, mais tu n'exerces pas ta propre imagination dans des domaines professionnels, rationnels et logiques. Tu n'apprendras le futur que comme passivement et pas passivement. En disant mais t'entends comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait penser autrement et comment on se relie les uns les autres. Et je trouve que du coup, c'est toujours important. Mais c'est pas que du supplément d'âme, c'est, je pense, c'est un peu essentiel. Au cœur essentiel. Et de toute façon, ça traverse toute l'histoire de l'humanité. Ça doit pas être un hasard.
Non, c'est pas un hasard. Alors, j'en viens malheureusement à ma dernière question. Voilà. Et je finis, c'est une question que j'aime bien poser de temps à autre sur un livre. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est pas grave. Hein. Je te vais te dire en deux minutes la synthèse de ce livre qui s'appelle La Seconde Montagne, David Brooks.
Ah non, j'ai pas lu.
La Seconde Montagne. Je te l'offrirai sinon. C'est un très beau livre. Alors, en substance, c'est quoi ? La première montagne, comme tu vas voir rapidement de quoi je veux parler, c'est celle qui symbolise les objectifs traditionnels du succès, tels qu'on les a définis, en tout cas, dans nos générations, où on monte sur cette première montagne, on devient dirigeant d'entreprise, on devient ministre, on devient des choses incroyables, on bâtit une réputation, des fois de la richesse, du succès, une reconnaissance personnelle importante. Et puis, à un moment donné, et ça dépend de chaque personne, eh bien, on entrevoit une deuxième montagne un peu plus loin. Et cette deuxième montagne, elle représente un parcours qui est beaucoup plus orienté, tu en as parlé tout à l'heure, du sens profond de sa vie, pourquoi on est là encore, aujourd'hui, maintenant, et de ce que l'on peut accomplir au service des autres, finalement. Dans ton cas, évidemment, tu as démarré déjà au service des autres.
J'ai commencé par la deuxième montagne avant la première. Ouais.
Voilà, quelque part. Mais est-ce que tu peux nous décrire, toi, ta seconde montagne aujourd'hui ? Parce que, bien sûr que tu as déjà, dans ta vie, finalement, intégré ces composants. Mais c'est quoi ? On a parlé un peu d'art, on a parlé de différentes choses que tu fais. Mais qu'est-ce qui te motive à continuer à escalader cette seconde montagne ?
Alors, moi, effectivement, j'ai plutôt commencé par la deuxième parce que j'ai rejeté la première. J'étais contre ce modèle. Et finalement, il est arrivé sur le tard.
Oui.
Parce que c'était un moyen d'arriver à mes objectifs.
Donc, mais du coup, la seconde à la première.
Enfin, j'ai fait les deux quand même. J'ai fait dans l'autre sens. Parfois. Mais je pense que dans la troisième montagne, je ne sais pas si elle existe dans son livre, il y a deux sujets pour moi qui sont très importants dans l'avenir. Il y a le sujet de la transmission. Oui. C'est quoi la transmission dans un monde qui change? Or, je suis persuadée que c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Parce que, alors, ce n'est pas forcément la transmission volontaire. Quelquefois, on veut transmettre, et c'est pas cela qu'on transmet. Mais quand nous, on a reçu d'autres.
Oui.
Et quand on sait reconnaître qu'on a reçu d'autres, qu'est-ce qui fait que c'est presque plus on prend qu'on donne.
Qu'on donne. Ouais,
mais du coup, c'est quoi la transmission? Parce que je pense qu'on est à un âge et à un moment et en plus où il faut se poser la question. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'adore explorer des nouveaux mondes. Bon, ça se voit un petit peu dans mon parcours. Et maintenant, c'est vrai qu'explorer comment, tout en continuant les conférences, les conseils d'administration, mais c'est le service après-vente. Oui. Enfin, c'est la suite.
J'ai compris.
Ça veut pas dire qu'on ne peut pas y faire des choses nouvelles et intéressantes et importantes. Mais être plus dans le mode avec d'autres, de la création artistique et de voir comment, avec ça, ça peut bousculer des choses, ouvrir des choses. Ça m'intéresse vraiment de conjuguer. C'est un peu une troisième vie, quoi.
Au sein de cette troisième montagne. Voilà. C'était une conversation profondément enrichissante et stimulante, et je suis vraiment très reconnaissante à Muriel de nous avoir emmené avec elle dans son voyage à travers non pas deux, mais trois montagnes. Un grand dirigeant comme un chef d'orchestre doit avoir une vision claire, être un communicateur efficace et encourager la collaboration. Et Muriel a réussi à faire cela dans de nombreux contextes extrêmement différents, et je suis impatient de voir où son prochain voyage la mènera. Je suis Jean-Philippe Courtois, vous avez écouté Positive Leadership. Si vous souhaitez en savoir plus sur des femmes engagées comme Muriel Pénicaud, je vous suggère les épisodes avec l'ancienne ministre à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, et Lucie Bache, aussi ancienne CEO de Too Good To Go, qui ont toutes deux des histoires passionnantes. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le lancement d'une mission d'entreprise, eh bien, jetez un coup d'œil à l'épisode de Pierre Dubuc, cofondateur et CEO de Open Classroom, qui rend l'éducation accessible à tous. Laissez-nous enfin un commentaire et donnez-nous une note de 5 étoiles sur Apple ou sur tout autre site où vous recevez vos podcasts. Et pour d'autres conseils pratiques sur la manière
de grandir en tant que personne, en tant que leader et en tant que citoyen du monde, suivez le lien dans la description de l'émission vers ma page LinkedIn et abonnez-vous à ma lettre d'information gratuite Positive Leadership and You. Un grand merci de m'avoir écouté. Au revoir.